Bienvenue dans notre émission « Quand ce n'est plus le cœur qui cogne ». Cette émission vous est présentée par Azedine et Zakaria et qui traite de la vie amoureuse chez les jeunes, qui résulte d'un partenariat entre Radio Campus sur la fréquence 92.1 et Info Jeunes. Cette émission est subventionnée par le Fonds d'aide à la création radiophonique, la communauté française, secteur jeunesse et l'égalité des chances.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Accro parmi nous. Merci. Ben, on va commencer par une petite série de questions par rapport à toi, quoi. Et on se disait, on se demandait, ouais, que signifie ton blaze?
Pourquoi ce blaze?
Pourquoi ce blaze?
Ben, j'ai commencé en fait le hip-hop par le graffiti. Et donc, dans le graffiti, il fallait avoir un tag assez court. Et j'ai choisi accro à la musique, accro au hip-hop. C'était un blaze assez simple qui est vraiment, je trouve, pas tellement original en fait, mais qui s'enchaînait assez bien sur les murs. Puis de fil en aiguille, j'ai gardé le AK de accro pour me faire appeler Eke quand on a commencé les disques avec Starflame. Et puis de fil en aiguille, nouveau, je suis revenu à accro, premier blaze. Je trouve que c'est pas un nom super original comme je viens de le dire, mais je pense que c'est plus la personnalité ou l'artiste qui doit parler, plus que son nom en tout cas, quoi.
Ok. Et voilà, on aimerait savoir quels sont tes futurs projets et tes actualités musicales.
Ben, en ce moment, je suis en train de préparer mon troisième album solo, donc je suis en studio. J'aimerais bien, si possible, sortir pour le printemps, mais ça demande quand même beaucoup de travail. C'est un album où il y aura beaucoup plus d'instruments live qui seront incorporés, parce qu'avant, j'étais beaucoup plus machine. Maintenant, j'ai eu l'expérience aussi avec un live band de 12 personnes de côtoyer plus de musiciens et de pouvoir mettre des vraies lignes de basse, des vrais cuivres, des éléments organiques qui seront beaucoup plus intéressant et qui m'amène vers un album un petit peu plus, on va dire, soul, blues, hip-hop, quoi.
Et tu pourrais nous dire comment ça se fait que tu t'es engagé dans la campagne de la communauté française M sans violence?
Ben, j'ai été contacté par donc le centre d'égalité des chances et par une boîte qui faisait la promotion de cette campagne pour voir si j'étais intéressé d'être un peu le porte-drapeau entre guillemets de la campagne. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un honneur de pouvoir la défendre, parce qu'en tant qu'artiste, en tout cas dans le rap, je pense que ce qui est très important, c'est le message. C'est une tradition qui remonte à Public Enemy, à des gens qui avaient vraiment des choses à dire, à IAM en France, à Assassin, etc. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Donc chaque fois qu'on prend le micro, c'est pour dire quelque chose, c'est pas pour faire de la variété, juste dire bouge tes fesses, fais ci, fais ça et amuse-toi en club. Bon, il y en a qui le font très bien, tant mieux, parce que ça peut amuser des gens, mais nous, on a grandi dans une tradition de messages. Donc ici, d'être contacté pour pouvoir défendre une campagne qui, je trouve, en vaut vraiment la peine, parce que j'ai aussi eu dans ma famille proche un jeune qui s'est fait violenter par un autre jeune suite à une histoire avec une fille. Donc voilà, j'étais aussi témoin de cette histoire et je trouvais que c'était important de pouvoir le faire et de pouvoir montrer que voilà, il n'y a pas que les clichés, l'homme, le garçon qui fait du mal à la fille, il peut aussi avoir des filles qui sont assez espiègles et qui font...
Au contraire.
Voilà, c'est le contraire, qui détruisent leur couple ou qui détruisent un garçon. Donc voilà, il fallait montrer les deux côtés, c'est ça qui m'a aussi intéressé dans le projet et on l'a vraiment bien exploité, on l'a vraiment bien montré dans le clip. Même si ça se termine par un drame, il fallait aussi parler du suicide qui peut toucher certains jeunes, quoi. Donc voilà, je suis toujours très fier de cette campagne. Le morceau, je trouve aussi qu'on a bien expliqué par rapport aux jeunes le message qu'il fallait expliquer. J'ai fait pas mal d'interviews, pas mal de forums dans des écoles pour aussi expliquer ça, quoi.
Donc concrètement, le message, c'est s'adresse surtout aux jeunes, quoi.
Bah, ça s'adresse aux jeunes pour que après ça s'adresse aussi aux adultes, puisqu'ils vont grandir. Donc effectivement, les premières relations amoureuses, bon, on peut être amoureux à tous les âges, mais les premières relations amoureuses, on va dire, où tu as le chagrin d'amour, c'est vers l'adolescence, vers 14, 15, 16 ans. Donc c'est ces gens-là qu'il faut toucher pour que quand ils soient aussi plus grands et qu'ils deviennent peut-être parents, qu'ils ne perpétuent pas une violence qu'ils ont peut-être subie de par leurs parents. Parce qu'un garçon qui est violent avec une fille, là on parle de violence physique, c'est peut-être parce qu'il a été violenté par son père dans son éducation. Donc voilà, c'est apprendre que voilà, ce que tu fais là, peut-être que toi c'est légitime parce que tu as grandi là-dedans, mais c'est pas forcément normal. Donc il faut leur expliquer, même chose au niveau psychologique, la confiance, la jalousie, regarder dans le téléphone de ta copine, c'est pas spécialement normal parce qu'elle a son cercle de, enfin elle a son petit cercle à elle et il faut, c'est privé entre guillemets, même si vous êtes ensemble, elle te respecte, toi tu dois la respecter aussi à ce niveau-là, quoi.
Tu me dis la confiance, la jalousie, mais moi je trouve que c'est deux choses contradictoires, hein. Vraiment.
Oui. Mais justement, mais il faut parler de cette jalousie pour expliquer ce que c'est la jalousie et jusqu'où la jalousie maladive peut aller et peut aboutir dans la destruction d'abord du couple, ce qui n'est pas dans l'intérêt des deux personnes, et dans la destruction de même ça peut détruire une personne au point qu'elle se suicide, de se sentir tout le temps épié, rabaissé parce que l'autre est jaloux. Donc voilà, faut en parler, quoi.
Tu peux me dire quelles sont les méthodes utilisées pour transmettre ce message, mis à part la musique?
Comme beaucoup de choses, la meilleure méthode, je pense, c'est les discussions. Même au sein d'un couple, quand ça va mal, ou quand on a un problème de famille, pas spécialement amoureux, mais il n'y a que la discussion. Quand chacun est replié sur soi et garde sa position, il y a des familles comme ça qui peuvent simplement, pendant 10 ans, ne pas se parler, et ça va détruire tout. Alors qu'il suffisait peut-être que chacun fasse son mea culpa ou se dise, voilà, là j'ai fait ça, peut-être que c'était bien, peut-être que c'était pas bien, et que les deux discutent entre eux pour briser la glace, et à ce moment-là, on peut commencer quelque chose. Ou on peut simplement aller ensemble vers le mur et se dire, voilà, notre relation, elle n'était pas optimale et ça ne fonctionne pas. Mais au moins, on en a parlé. On n'est pas dans son coin, parce que là, chacun perd son temps et perd son avenir aussi, quoi.
Ça veut dire que la campagne...
C'est pour sensibiliser les jeunes et ouvrir le débat. Donc voilà, okay. Si aujourd'hui il y a un débat encore après, ça fait presque un an et demi, 2 ans que cette campagne a débuté. Si aujourd'hui vous me permettez d'encore en parler, c'est qu'elle a touché des gens, c'est qu'elle a touché peut-être des centres culturels ou des éducateurs qui relaient l'information, qui sont sensibilisés et qui vont donc toucher des jeunes. Et là, c'est qu'on a atteint notre but, quoi.
Effectivement, ils sont passés aussi dans notre école il y a 2 ans, je pense.
Ouais.
Et ils avaient fait une pièce de théâtre.
Ouais, voilà, mais c'est une campagne nationale, donc il y a pas que moi. J'ai fait un morceau, j'ai fait un clip qui a été diffusé en télé, peut-être pour en rentrer dans les foyers. Mais il y a d'autres manières. Il y a aussi le théâtre. Voilà, il y a des animations de rue qui permettent de mettre en situation des couples et qui vous expliquent un petit peu ou qui vous montrent trois façons de faire, par exemple avec 2 personnes. Et vous êtes spectateur. Je pense que c'est ça qu'ils vous ont montré. Et ils vous mettent au centre de la pièce en vous disant, voilà, si toi tu montais sur scène, comment est-ce que tu aborderais le problème, ou est-ce que tu permettrais ça à ta copine ou pas, au chic? Et voilà, et ça ouvre aussi un débat, ça ouvre aussi une discussion qui va permettre aux francs de tomber et aux gens de faire leur chemin après, quoi.
Ok.
Ben voilà, c'était la première partie de notre interview. On va lancer un de tes morceaux de ton dernier album qui s'intitule Amour blessé.
Ouais, ça c'est un morceau pour la campagne, hein. C'est okay. Pas sur mon album.
Voilà.
Bercée entre ses rêves et son lycée, fille de bonne famille qui n'aspire qu'à se réaliser. Avec son mec, 3 semaines sont passées, mais plus elle essaie de lui plaire et plus il semble crispé. Elle ne voit que son amour, il ne voit que ses gestes déplacés dans ses propos quand elle veut juste être belle. Il la rabaisse sans cesse devant ses profs, devant ses potes. T'as vu ta jupe, t'es pire qu'une pute, moi je sors pas avec une salope. Alice ne digère pas mais fait comme si tout allait bien, pensant que le temps adoucirait leur dessin. Mais Rien n'y fait, ni dans leur relation, ni dans le sexe. Il veut la contrôler, trop oppressant dans ses caresses. Celle qui voulait vivre libre va garder pour elle ce secret, par crainte des coups et des menaces qui la suivent de près. Tu fermes ta gueule maintenant, faut que t'assumes. Tu la ramènes, je te fume. Elle plie sous le poids des insultes. À tous les amours blessés, adolescence enlisée.
Tu ne dois pas te laisser faire, il est temps de refermer tes plaies.
À tous les amours blessés, adolescence enlisée.
Tu ne dois pas être pressé, c'est celui qui veut juste t'aimer.
Nicolas draguait les filles tous les soirs sur MSN, s'immisçait par SMS dans le cœur des demoiselles, jusqu'au jour où il trouva sa perle, son Eldorado. Amour passionnel du genre qui te fait toujours des cadeaux. Elle s'accrochait tellement qu'elle appelait 20 fois par jour. Au début c'était trop cool, mais c'est vite devenu trop lourd. Il ne pouvait même plus sortir avec ses potes, regarder d'autres filles sans qu'elle lui fasse une crise ou qu'elle sanglote. Un œil sur lui, un autre sur son portable. Elle supprimait tous les contacts qu'elle jugeait non fréquentable. Contraint de lui faire écouter sa messagerie, Nicolas était pris dans la spirale de sa petite amie, sans savoir que ses propres complexes en étaient la raison. Elle enfermait son mec dans son appart comme en prison. Un jour il a pété un câble, s'est jeté dans le vide. L'amour en cage est un amour impossible, tu le sais. À tous les amours blessés, adolescence enlisée.
Tu ne dois pas te laisser faire, il est temps de refermer tes plaies.
À tous les amours blessés, adolescence enlisée.
Tu ne dois pas être pressé, celle ou celui qui veut juste t'aimer.
Violence verbale, violence physique, violence non dite, violence gratuite, stop ce transit. Ne perpétue pas les schémas qu'on t'inflige, même si pendant qu'il goûtait tranquille, toi tu mangeais des gifles. Un sale cycle, de l'oppresseur à l'oppressé, à l'oppresseur. Trop mal dans ta peau quand revient l'ascenseur. Tu peux te sortir de ce vice, frangin, de tes combines, frangine. Reprends ton histoire en main. À tous les amours blessés, adolescence enlisée.
Tu ne dois pas te laisser faire, il est temps de refermer tes plaies.
À tous les amours blessés, adolescence enlisée.
Tu ne dois pas être pressé, celle ou celui qui veut juste t'aimer.
Voilà, nous retrouvons Accro pour la suite de notre interview. Pour toi, Accro, est-ce que c'est un préjugé ou les rappeurs sont-ils sexistes dans leurs chansons ?
Ben, on va dire que dans 60% des cas, il y a quand même beaucoup de sexisme et d'images affichées contre la femme. Mais maintenant, ça vient aussi de la culture américaine et c'est pas forcément la même réalité en Europe et surtout pas en Belgique. Enfin bon, il y a quand même des gens qui sont influencés par le côté club et ont envie de mettre des strings dans leurs clips. Mm-hmm. Maintenant, je pense qu'il faut quand même faire la part des choses. Les États-Unis, c'est un peu le pays du rêve ou de la mort, on va dire. Donc les gens, je les excuse pas, mais j'explique. Des gens à la 50 Cent qui arborent des grosses bagnoles, des grosses chaînes et tout, c'est parce que pour sortir du ghetto, tu dois passer. Enfin, il y a que le rêve, parce qu'on va pas leur donner un job et une sécurité sociale comme on peut avoir ici. Donc voilà, eux, ils veulent briller, ils veulent montrer que c'est comme ça qu'ils réussissent, et c'est pas forcément bien parce qu'il y a peut-être pas eu d'histoire derrière, il y a peut-être pas eu une culture assez profonde. Alors qu'il y en a quand même une, mais nous on parle, enfin, on défend plus un rap social, un rap qui a un message, et donc on va moins vite tomber là-dedans, même s'il y en a aussi qui le font, quoi.
Ok. Et y a-t-il une différence entre les rappeuses et les rappeurs ?
Le sexe ?
Ouais, le sexe.
Justement. Sinon, ben, la sensibilité, je pense que voilà, l'homme et la femme sont différents, heureusement, c'est pour ça qu'ils s'assemblent. Mais dans la chanson, ça peut aussi se sentir. Peut-être pas sur certains morceaux de Diams, parce qu'on peut dire que pour une fille, elle a des couilles.
Ouais, c'est vrai.
mais je pense qu'il y a des rappeuses qui ont... Enfin, dans certains morceaux, elle est plus vénère, mais dans d'autres morceaux, elle est quand même plus sensible et elle met en avant sa féminité. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de se dire, voilà, le rap, c'est peut-être une image macho, ça vient de la rue, c'est un son de débrouillard qui ont commencé avec rien du tout, mais il y a aussi des filles dans ce milieu, dans la difficulté. Donc pourquoi arrêter le rap juste aux garçons, quoi.
Ok.
Mais il y a peut-être une timidité de la fille aussi, parce que dans les premiers rapports de micro, dans les radios ou dans les soirées, il y a des battles. Et donc là, c'est une bande de Zoulous acharnés. Ouais, et une petite fille qui débarque là-dedans, elle se dit, bon, je vais quand même peut-être pas y aller. Donc il faut beaucoup de courage pour la fille, pour briser la glace et au moins prendre le micro et commencer ses premiers pas, quoi. Donc ça explique peut-être qu'il y en a moins.
Ok. Et que peux-tu dire dans les clips ? Les clips qui accompagnent les chansons des rappeurs, souvent les femmes sont « chosifiées », entre guillemets,
ouais.
Qui veut dire qu'on les considère comme des objets.
Ouais.
On voit souvent un homme entouré de nombreuses femmes, comme chez Snoop Dogg, 50 Cent ou Booba même en France.
Bien sûr. Bah, c'est ce que je t'expliquais par rapport au cliché du rêve américain, mais c'est vrai que ça ne peut pas s'arrêter qu'à ça et qu'il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'il continue. Moi, je pense simplement que, par rapport au clip en tout cas, que c'est pour aguicher l'œil. C'est comme une publicité quand vous passez en rue et qu'on veut vous vendre le dernier H&M, on va mettre un top mannequin, on va pas vous mettre Madame Gertrude de la friture d'à côté.
Ouais, c'est la même chose.
Et donc ici, c'est un petit peu le même délire, mais c'est encore plus accentué, c'est exorbitant, c'est écœurant, c'est clair. Mais quand les gens zappent, ils vont rester accrochés sur le clip parce que, boum, ils ont vu un string passer. C'est d'ordre primaire, quoi. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et donc, c'est sur ce marketing-là qu'ils travaillent. Et ils se sont dit, si la formule fonctionne, pourquoi changer ? Je pense qu'à un moment donné, si les gens avaient tous une envie d'avoir un rap conscient, un rap à message qui leur donne une autre manière de penser, ça changerait le fil de la réflexion du marketing de l'industrie. Mais ce n'est pas encore le cas, quoi. Donc, voilà.
Il y a réellement une grande différence, alors
Entre quoi ? Europe et États-Unis ? Ouais, bien sûr. Mais le problème maintenant aussi, c'est que le rap américain, c'est l'origine du rap. C'est un rap qui est quand même, au niveau technique, au niveau du flow, au niveau de la musicalité, qui est en avance sur le nôtre. C'est un rap qui est bien fait. Et donc, c'est pour ça que les gens, quand ils entendent un son, même à la 50 Cent, vous entendez ça en boîte, vous bougez directement parce que ça groove, il y a quelque chose dedans. Et donc, les rappeurs européens essayent d'aller vers cette tendance, mais ils sont toujours un an en retard. Et ça, ils n'ont pas encore compris que ce serait peut-être mieux de faire leur sauce à eux et qu'elle prendrait peut-être différemment, c'est clair, mais qu'au moins, ce serait leur sauce. Donc, tous les gens, il y a un hit de Timbaland. Vous allez voir, 6 mois après, tous les beatmakers européens vont faire du Timbaland. Et alors, il y en a peut-être un qui va un petit peu cartonner ou qui va se faire vraiment produire par Timbaland comme Matt Pokora, mais pour moi, c'est n'importe quoi. Parce que voilà, c'est pas sa culture. Et alors, il fait des trucs en français ou il met des phrases en anglais. T'es dangerous, ça veut rien dire, quoi. Je veux dire, c'est pas sa culture. Donc voilà, c'est un peu ça que
faut bien faire la part des choses. Revenons un peu à ta campagne.
Ouais.
Comment définis-tu la violence amoureuse ?
Ben, la violence, déjà, elle fait partie, si on parle de violence, elle fait partie de la vie de tous les jours. Il ne faut pas spécialement, comme on parle de rap ou comme on parle de jeunes, de telle ou telle origine, il ne faut pas stigmatiser cette violence à telle classe sociale ou telle culture ou tel chemin. La violence, elle est partout. Elle est dans les films, elle est dans la réalité. Quand on a les nerfs, on devient violent. Peu importe qu'on fasse une file interminable dans un magasin ou que ce soit pour une autre raison. Donc la violence, elle est là. Maintenant, cette violence se mélange aussi à l'affectif, à l'amour, parce qu'on est touché dans notre ego quand on aime vraiment quelqu'un et qu'on se sent blessé. Peu importe si la manière dont on s'est senti blessé est vraie, enfin juste ou fausse. C'est-à-dire qu'un gars qui est parano de croire que sa copine va le voir à côté alors que sa copine elle est bien et qu'elle s'habille peut-être bien pour lui, le gars il va se faire un film dessus parce qu'il se sent blessé dans son ego, parce qu'il aime vraiment cette fille. Mais voilà, donc là ça devient une violence amoureuse parce qu'il est amoureux et que ça se transforme en haine. Que l'amour et la haine sont juste l'un en face de l'autre et qu'on peut très vite permuter de l'un à l'autre. Et c'est la haine qui va déclencher une violence. Mais c'est une haine qui part d'un amour. Donc c'est comme ça que je l'explique.
Et faut-il faire une différence entre violence et dispute ? Est-ce qu'il y a une différence ?
Moi, j'aime pas tellement le mot dispute. J'aime bien le mot discute. Parce que parfois, mais c'est vrai, parfois moi je discute fort. Où je veux faire passer mon avis pour que ma copine l'entende, elle dit ouais, pourquoi est-ce qu'on se dispute ? Je fais non, on se dispute pas, on discute. C'est simplement que le taux a monté parce que de nouveau, il y a le petit bouton haine qui s'est un peu allumé pour une certaine cause. Et maintenant, il y en a vraiment qui se disputent au point où ils se lancent des trucs à la figure, où ils s'agressent, où ils se giflent, ils se tirent. Là, pour moi, ça devient une dispute parce qu'il y a acte physique et il y a violence. Mais je pense qu'on peut se disputer aussi, c'est vrai, moralement, avec des mots qui blessent. Mais dans ma définition du truc, moi, je dirais plutôt une discussion élevée, enfin, discussion...
Et quand on est violent, on perd le contrôle de soi ou tente de prendre le contrôle de l'autre?
Bah, la violence, c'est un retour à l'état primaire, à l'état brut, un peu animal. C'est, on est tous des animaux évolués, donc on a tous la violence à l'intérieur de nous. Donc c'est clair que c'est une perte de contrôle, c'est une perte de conscience, et elle peut être déclenchée par l'affectif, justement, quand on se sent blessé, hop, on peut péter un plomb et...
Même quelqu'un de sensible, quoi.
Justement, quelqu'un de sensible. Mais quelqu'un... Je dirais que quelqu'un de complètement insensible... il sera pas violent parce que rien va le toucher, mais quelqu'un qui a senti qu'il s'était fait toucher d'une manière ou d'une autre, voilà,
il peut arder dans le cœur.
Mais on a tous des comportements violents, mais il y a des degrés et ça dépend vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi. Et ici, dans le cas présent, au niveau affectif, c'est le déclencheur, il est aussi affectif, quoi.
Mais tu trouves pas aussi que je sais pas comment dire, c'est allez. Que la personne essaye de prendre le contrôle, justement, parce qu'il, comme il le perd, ouais. Comme il le perd dans une dispute, ou, ouais. Est-ce qu'il n'essaie pas de la prendre, de prendre ce contrôle-là?
C'est vrai que pour combler son manque de confiance en soi, on peut essayer de prendre confiance, de prendre justement le contrôle des deux personnes. Mmh. Et donc, mais c'est encore une réaction, justement, de... Comme quand on active le bouton haine, de se dire voilà, je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, je panique et bam, alors je vais mettre une dose de contrôle supérieur ou pour essayer de me rassurer et de dire que tout va bien, mais c'est aussi un mauvais calcul, quoi.
Ok. Ben là tout de suite nous allons passer, c'est la fin de notre deuxième partie.
Ouais.
Et nous allons passer une petite pause musicale. C'est une chanson de Brigitte Fontaine.
D'accord.
Intitulé Ex-Paradis.
Okay.
On se retrouve après la pause.
Si tu veux savoir pourquoi je ne t'aime plus, tâche de savoir. Demande-toi pourquoi ta violence est ta loi. Demande-toi pourquoi tes orages sur moi. Demande-toi pourquoi la terreur et le bas. Demande-toi pourquoi dans mon cœur le trépas. Si tu veux savoir. Je ne t'aime plus. savoir pourquoi toujours tu me tues. Ex-reine du sabbat, déchu sur son grabat, esclave des arrois, prophète sur sa croix. Je t'aime encore, tu vois, pour la dernière fois. Je t'aime encore, tu vois. Je vais où tu n'es pas.
On est de retour sur Radio Campus en présence d'Acro. Et voilà qu'on va recommencer nos petites séries de questions. Mmh. Alors, on aimerait savoir est-ce que tu penses que la campagne sur la violence amoureuse a eu un impact chez les jeunes?
C'est une très bonne question parce qu'elle est difficile à mesurer en fait. Parce que comme c'est un sujet qui est parfois un peu tabou, dans le sens où ceux qui sont victimes ou qui vivent ça dans leur couple n'ont peut-être pas envie de le crier sur tous les toits parce que déjà l'adolescence a un peu un amour fragile, c'est difficile de mesurer avec un thermomètre si ça a bien fonctionné ou pas. Maintenant, je pense que la diffusion qu'on a eue sur MCM a pu rentrer dans beaucoup de foyers, comme je le disais tout à l'heure, et donc toucher fatalement des jeunes qui ont au moins vu le clip. On a distribué gratuitement, je pense, une échelle de 200 000 exemplaires le CD dans un magazine. Donc peut-être que les parents qui ont eu le CD, qui ont compris le but de la campagne, ont pu le donner à leurs enfants pour leur faire comprendre et passer le message. Donc à ce niveau-là, c'est bien. Donc c'est quand même une campagne qui a touché toute la francophonie en Belgique, donc parce qu'elle a aussi été affichée dans les écoles. Chaque professeur a reçu un poster avec un explicatif, un folder avec toutes les points sensibles de la campagne et pourquoi elle a été faite. Donc je pense que s'il y a des professeurs conscients et qui peuvent faire passer le message à leur école, en plus qu'il y a des films, il y a des débats, il y a des pièces de théâtre, ils pouvaient faire passer le message et je pense que le message est bien passé. Moi, j'en suis convaincu. Maintenant, c'est très difficile de voir si ceux à qui c'est vraiment adressé, ceux qui sont dans une charnière de relation où ça peut basculer et où il peut avoir un danger pour eux ou pour l'autre du conjoint, là, c'est pas facile à mesurer.
En fait, on sait pas faire d'estimation exacte, mais on sait que ça a marché.
C'est normal aussi que sur le site, par exemple, de M sans violence, les gens qui témoignent n'ont peut-être pas envie de dire d'où ils viennent, parce que c'est quand même un sujet délicat. Mais ils avaient aussi permis une ligne téléphonique anonyme, justement, pour avoir des témoignages, comme dans le cas de différentes campagnes. Et voilà, on ne sait pas mesurer. En général, on sait déjà à l'avance qu'on travaille un petit peu sur de l'abstrait. Mais ça doit être fait, parce que si personne ne dit jamais rien, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui est fait, aucun message qui passe. Quoi.
Et cette violence, elle s'accroît ou elle diminue avec le temps, avec les générations ou autre?
Je ne suis pas, professeur, ni j'ai pas étudié les statistiques complètes de cette violence, mais je pense que à l'heure où on avait fait la campagne, on pouvait dire qu'elle touchait directement ou indirectement 9 jeunes sur 10, ce qui est énorme. Maintenant, quand on dit toucher, ça peut être que quelqu'un est témoin d'une copine ou un copain de sa classe qui est victime de ce type de violence. Donc, on peut dire que ça touche vraiment énormément de monde. Maintenant, est-ce qu'elle s'accroît ? Je pense quand même que, avec le GSM, en tout cas depuis l'arrivée du GSM, ça devient un moyen de communication fantastique, mais ça devient aussi un moyen de contrôler l'autre ou de pouvoir le contrôler, qui est abominable, quoi. La première chose que vous entendez souvent dans des discussions, et ça c'est banalisé, même quand c'est pas violent, mais c'est quand même violent, c'est de se dire « Salut, ça va, t'es où ?» Donc là, c'est la première question. On doit localiser l'autre. Pourquoi pas lui mettre un GPS entre les fesses, quoi. C'est « Ça va, t'es où ?» Donc c'est ça va, c'est plus ça va, tu vas bien. Avant l'ancien téléphone, là, on prenait plus son temps pour, on avait tout un cadran pour faire tous les numéros. Ben au moins après on disait ça va la famille, comment vous allez, qu'est-ce qui se passe, machin. Et on pouvait pas demander t'étais où parce qu'on savait qu'ils étaient à la maison puisqu'on téléphonait là. Aujourd'hui on veut localiser l'autre, donc c'est déjà une petite prise de contrôle, savoir où est-ce que tu es, quelle heure il est, d'où tu, quand tu rentres, nanana. Donc voilà, ça c'est dans toutes les familles aujourd'hui avec le GSM et ça peut amener des comportements qui vont de là. Dont cette violence jalousie. Pardon.
Et quel conseil tu donnerais ?
Coupez vos GSM.
Non, quel conseil tu donnerais aux jeunes pour arrêter d'être violent ?
Ben, les conseils, ça fait un petit peu le grand schtroumpf. Moi, je ne suis pas tellement là pour leur dire comment faire, mais je suis plutôt là pour leur dire ça existe. Et maintenant, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Vous commencez, enfin, ceux qui ont 14, 15, 16 ans, ils ont une conscience, ils savent, ils ont des valeurs. C'est à eux de pouvoir les mettre en œuvre et de se dire, voilà, moi, je veux plutôt aller de ce côté-là ou de ce côté-là. Il faut qu'ils aient entendu le message et qu'ils puissent après prendre position. C'est pas à nous de leur dire, fais ci, fais ça. Nous, on expose les faits. Et j'aime pas tellement être donneur de leçons, quoi. Maintenant, c'est clair que si je vois un jeune autour de moi qui a ce genre de comportement, je lui dirais, écoute, vas-y, laisse-la tranquille, ou c'est son téléphone, je vois pas pourquoi tu deviens parano, parlez-vous d'abord. Ça, c'est un peu c'est un peu le message qu'on peut faire passer, les conseils, mais ça s'arrête là, quoi.
Donc toi, personnellement,
Je pense qu'on a donné des conseils assez explicites par rapport à la campagne. Donc dans le morceau, on explique différents cas qui se produisent et ce que ces cas vont amener comme problème, comme problématique. Maintenant, c'est aussi du cas par cas, donc je veux bien parler avec chaque jeune que je vais croiser, mais si ça tombe sous le sens, oui. Mais après ça, je suis pas un agent psychothérapeute. Donc chacun son métier, quoi.
Et autour de toi, est-ce que tu as déjà connu des faits de violence amoureuse, conjugale ?
J'ai déjà vu mes parents se disputer, donc c'est conjugal. J'ai déjà vu un jeune se faire frapper par un autre jeune parce qu'il était sorti avec une fille et que l'autre voulait aussi sortir avec la même fille, donc... J'ai pu être témoin de ce genre d'agissement et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné envie d'en parler dans la campagne. Mais en général, les gens que je côtoie, ils sont plutôt dans la discute et dans la petite dispute que dans la grosse claque, quoi. Ouais. Au niveau du couple, heureusement d'ailleurs.
Penses-tu que la violence amoureuse chez les jeunes précède la violence conjugale chez les adultes ?
Ben oui, je pense qu'il y a un terrain... Il y a un terrain qui fait que quand on a vu des gestes depuis qu'on est né se perpétuer, on n'est peut-être pas en mesure de se dire que c'est bien ou mal parce que c'est normal. Si un enfant a grandi dans un tout petit environnement où on lui donnait, juste un bol de riz par jour et qu'on le frappait tous les jours, ben, il va grandir en se disant que c'est normal. Même, il ne va pas se poser en victime. Maintenant, de voir des parents, par exemple, qui se disputent ou une mère qui est rabaissée continuellement, le garçon va se dire en grandissant, ou la fille, voilà, le rôle de l'homme, c'est d'être comme ça. Le rôle de la femme, c'est d'être comme ça. Surtout si les parents ne se disputent pas et qu'ils continuent à vivre comme ça et que là, peut-être la mère encaisse sans rien dire. Enfin, je parle de homme, mère, pas mère victime, mais ça peut être l'inverse. Et donc, voilà, ils grandissent avec ce schéma. Et il faut qu'ils côtoient d'autres jeunes dans d'autres cercles familiaux pour se dire, voilà, peut-être que chez moi, c'est pas si normal que ça, parce que chez mes 5 autres potes, ça se passe pas comme ça entre les parents. Donc voilà, il faut... c'est nouveau de la discussion, quoi.
Faut aller voir ailleurs également, ouais, pour voir comment, ouais, ça se passe, quoi.
Ouais.
Ça pourrait être un petit conseil, ça.
Aller voir ailleurs, ouais, faut voir comment il est interprété, quoi. Mais il faut toujours, je pense, pour se faire son opinion, il faut rencontrer les autres. C'est clair que quand vous êtes que dans votre bulle, vous ne pouvez connaître que ça. Donc vous êtes rassuré, soit vous êtes mais vous êtes dans votre bulle, donc voilà.
Bon, on va faire une courte pause maintenant.
Il y a beaucoup de pauses, hein.
Ouais. Marqué toi aussi.
Très courte en fait.
On va passer un titre qui s'appelle Little Sister de Pepperside et on se rejoint tous après.
D'accord. Bye.
sister, don't you see me begging you down on my knees? As you take this dream inside of me, I feel a growing pain. And it feels so hard, you're living now after all you told me. And I feel so sad, blue and alone, like in foreign country.
Easy, but don't you blame me so easily. There'll always be a point where two roads cross. It was my time in that you smile. So take your own train and stop to complain. The road is long before you know where you belong.
Voilà, on est toujours là avec notre invité d'honneur Accro, Azizine et Zakaria. Accro, est-ce que l'on aime quand on est violent? C'est une question un peu...
Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Pour qui est violent, je pense qu'il faut être blessé dans son ego et qu'il faut un déclencheur. Donc il faut être, faut être hors de soi. Et donc je pense qu'il faut que, effectivement, et que l'amour se transforme en haine. Donc il faut aimer peut-être, oui. Il y a certainement des êtres violents qui sont juste par méchanceté, parce qu'ils sont vraiment comme ça de nature, mais dans le cas présent de la campagne, je pense que ce qui amène la violence, c'est peut-être l'amour qui est justement mal géré et qui devient la haine, donc la violence.
On m'a toujours dit que moi, que que la haine, ça faisait partie de l'amour.
Ouais, c'est clair.
Ah, ok.
Ouais, c'est juste.
C'est comme le yin et le yang. Il y a un petit point dans chaque, de chaque côté. Et le petit point peut...
Il y a toujours une part de méchanceté dans quelqu'un qui est bon. Et...
Voilà.
Et de, ça, le contraire.
C'est l'équilibre des choses. Mm. C'est une autre émission.
Est-ce que tu penses que cette campagne, Aime sans violence, devrait prendre la même ampleur que le Télévi ou Cap 48, quand on sait que, que ce problème touche plus de monde que le Télévi?
C'est très, très, très difficile à répondre à cette question, parce qu'en fait, le Télévi, ça touche vraiment la santé, la vie d'enfants, d'adolescents, ou même d'adultes avec la leucémie. Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a des ordres de priorité, on va dire, dans les campagnes, parce qu'on touche d'abord à ce qui est vital, quoi. Là, on parle de vie, tout ce qui est associations qui veulent défendre la santé, les différentes maladies qui sont rares ou moins rares. Je pense que c'est normal qu'il y ait des donneurs qui soient énormes. Ici, c'est un message. Donc, on n'a pas spécialement besoin d'argent énormément pour supporter la cause. C'est clair qu'elle aurait pu être peut-être mieux diffusée par tout l'ensemble des radios. Nous, on a eu un partenaire radio, mais c'est un partenaire radio qui, moi, je pense, n'est pas assez ciblé jeune. Donc, on aurait peut-être pu avoir des radios un peu plus jeunes qui bon, ils en ont parlé dans des émissions spécialisées, mais ils n'ont pas fait une promo comme on peut faire des pubs à longueur de journée. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais sinon, je pense que des campagnes comme le Télévi ou d'autres, en France, Téléthon, Cap 48 ou d'autres campagnes sont quand même plus vitales et sont plus c'est nécessaire qu'elles soient beaucoup plus grandes. Ouais, parce qu'on touche à la vie, quoi. Et il y a, avant qu'il y ait une violence amoureuse, il faut peut-être qu'il y ait une vie, quoi. Donc ça passe, ouais. Ça passe malheureusement derrière.
Voilà. Et quels sont les programmes qui s'occupent des victimes et des agresseurs?
Est-ce que tu as une idée, en fait?
Est-ce que tu en connais?
Justement, sur le site msansviolence.be, il y a des liens qui vous permettent d'aller directement vers des centres qui gèrent ce genre de situation, que vous soyez victime ou que vous soyez agresseur, pour justement briser la glace et en parler de manière anonyme ou d'autres manières, avec des gens qui sont des éducateurs ou qui sont psychologues et qui savent de quoi ils parlent. Donc sur ce site www.msansviolence.be, vous pouvez directement, assez facilement d'ailleurs, rentrer en contact avec quelqu'un qui vous répondra.
Et y a-t-il des associations spécifiques pour les jeunes?
Elles sont aussi reprises sur ce site, je pense. Je ne connais pas toutes les associations, mais il y en a. Hein. Justement, les associations de terrain qui font des campagnes de théâtre.
Il y a comme... on va citer quelques exemples.
Il y a différentes AMO et tout.
Ouais. Pour à rue Blanche, pour les femmes battues. Il y a le Praxis aussi.
Voilà.
À rue du Marteau, 19, 1000 Bruxelles, qui s'occupe également des agresseurs. Mm. Et voilà.
Et en fait, nous, on ne trouvait pas ça normal qu'il n'y avait pas réellement d'ASBL poursuivre les jeunes agresseurs, alors que normalement elle devrait jouer un rôle, je pense, dans
tout ce genre de centre ou d'association. Je pense que si vous venez de bonne foi en tant qu'agresseur, vous allez être, c'est déjà un premier pas, donc vous faites un effort et vous allez être écouté, que ce soit dans des groupements qui sont plus féministes ou autres, des plannings familiaux, ou même chez un médecin, ou dans un centre culturel de quartier. On va pouvoir vous dire, ou un centre jeune, on va pouvoir vous dire, tiens, tu viens me parler de cette problématique, je vais t'envoyer par là ou par là. Donc en tant qu'agresseur ou en tant que victime, je pense qu'il y a toujours moyen, si on se manifeste, en tout cas si on fait l'effort, de pouvoir toucher quelqu'un, quoi. Qui vous aidera.
Ben, merci. Et voilà quoi, on va faire une dernière petite pause.
La toute dernière,
c'est promis.
The last one.
Voilà.
Avant la fin, quoi.
Merci à vous, en tout cas, c'était constructif. Je pense que vous avez bien préparé vos questions et ça peut interpeller des gens. J'espère que la campagne continuera à bien parler d'elle avec cette interview.
Voilà, c'était Miss Kittin and the Hacker, je parle un très bon anglophone, de Mill Dreams. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. On aimerait remercier Acro et aussi toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission, c'est-à-dire Hussein, Mehdi, Chantal et Déborah. Et si vous cherchez des renseignements complémentaires, vous pouvez les trouver sur le site www.m100violence.be et sur le site www.inforjeune-bxl.be. Voilà quoi, l'émission est aussi placée sur le site d'Inforjeune. Juste pour rappel, ce programme est subventionné par le Fonds d'aide à la création radiophonique
par la communauté française.
Et par la communauté française, secteur jeunesse et l'égalité des chances. Merci.
Ouais, ouais, ouais.
Au revoir.
Au revoir.